Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus. Je suis Marie Chelsault.
Et je suis Manon Pourtois.
Nous sommes étudiantes en master de journalisme ici à l'ULB. Aujourd'hui, nous vous présentons un épisode de la série Histoire de savoir, une émission consacrée à la vulgarisation des sciences exactes. Le sujet du jour nous a passionnés et on a voulu le partager avec vous. Nous allons vous parler de l'impact des conditions spatiales sur le cœur des astronautes. Et pour nous aider à mieux comprendre ce sujet complexe, nous avons interviewé un expert de ces questions.
Nous avons donc rencontré Cyril Tordeur, doctorant ici à l'ULB en quatrième année. Il vient de rendre sa thèse il y a tout juste quelques jours. Il a commencé sa carrière par des études en kinésithérapie et a travaillé ensuite comme kiné pendant 4 ans. Mais il s'est vite rendu compte qu'il préférait la recherche. Il s'est donc tourné naturellement vers la physiologie cardiovasculaire. Nous lui avons demandé de nous expliquer le sujet précis de sa thèse.
Le sujet particulier de la thèse, c'est, on en reviendra après, c'est une dissociation qu'il existe au fait dans l'adaptation du cœur, mais principalement deux structures internes du cœur qui ne s'adaptent pas de la même manière dans ce contexte d'impesanteur, réel ou simulé.
Donc concrètement, vous parlez de ces deux parties du cœur. Quelles sont-elles et quel est leur rôle? Enfin, qu'est-ce que vous étudiez exactement?
Donc le cœur, on l'imagine, c'est 4 cavités. Donc c'est une pompe. Donc l'objectif d'une pompe, c'est d'envoyer un liquide en périphérie. Alors généralement, la pompe va pressuriser le liquide parce que pour l'envoyer en fait, à plusieurs mètres, si on prend une pompe qu'on a à la cave de la maison, pour l'envoyer tout en haut de la maison, il faut envoyer une certaine pression pour lutter contre la gravité et envoyer ce liquide tout en haut de la maison. Le cœur agit de la même manière. Donc le cœur, il va essayer d'envoyer du sang pressurisé. Alors pourquoi le sang? Parce que le sang en fait contient les nutriments, l'oxygène qu'on a besoin pour fonctionner. Et donc le cœur va éjecter ce sang pressurisé et l'envoyer vers le cerveau, vers les pieds. Okay. Donc quand on est debout, le cœur doit lutter contre la gravité pour nourrir notre cerveau. Il est facile à envoyer vers les jambes, mais il doit lutter pour le cerveau. C'est pour ça qu'il pressurise le sang. Il pressurise également les poumons, mais vu que les poumons sont beaucoup plus proches du cœur, il doit travailler à moins de pression. Et vu que le cœur doit travailler à deux régimes de pression différents, pour envoyer très loin et très proche, le cœur s'est adapté et fonctionne en deux structures, sous-structures, le cœur droit, le cœur gauche. Le cœur droit travaille à basse pression, le cœur gauche à haute pression. Et donc il y a 4 cavités, parce que finalement, la pompe s'est quand même divisée encore en deux, pour avoir l'oreillette droite, le ventricule droit, l'oreillette gauche, le ventricule gauche. Ok ? Donc ça, c'est les 4 grosses cavités du cœur. Moi, je me suis intéressé au cœur gauche, donc qui va finalement pressuriser la circulation pour l'ensemble du cœur, du corps. Pardon. Et principalement, le ventricule gauche. L'oreillette, on l'étudie un petit peu moins. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est surtout le ventricule gauche qui est étudié, parce que si le ventricule gauche lâche, ne fonctionne pas, c'est ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque gauche. C'est une pathologie très connue sur Terre et très prévalente. Et donc, cette insuffisance cardiaque était étudiée chez les... Alors, ce n'est pas l'insuffisance cardiaque, mais la fonction du ventricule gauche a été très rapidement étudiée dans le contexte des astronautes, parce qu'on voulait savoir si, finalement, aller dans l'espace est un problème médical pour eux ou non. Et donc, le ventricule gauche a été étudié dès, je crois, les années 1970, 1980, et on a vu que, dans le contexte spatial d'impesanteur, le ventricule gauche s'atrophie, donc il perd en masse. Alors c'est un muscle, le cœur. Et donc on imagine que, on fait le corrélatif, quelqu'un de frêle versus quelqu'un d'extrêmement musclé, quelqu'un d'extrêmement musclé a plus de force. Et donc si on perd en masse du muscle, on va perdre en force. Globalement, c'est ça. Et donc si le cœur, le ventricule gauche, s'atrophie, il perd en force. S'il perd en force, il s'est moins éjecté, moins pressurisé, donc il s'est moins facilement envoyé vers le cerveau. C'est ce qui se passe en impesanteur. S'il n'y a pas d'activité physique, le ventricule gauche s'atrophie, perd en masse, et donc c'est moins lutter contre la colonne de liquide, donc lutter en termes de pression. Donc moi, j'ai étudié le ventricule gauche. Et principalement, une autre petite structure, comme on le disait juste avant, donc il y a deux structures, le ventricule gauche, et les muscles papillaires du ventricule gauche. Alors là, sans schéma, c'est un peu compliqué d'expliquer, mais en gros, je parlais de l'oreillette gauche et du ventricule gauche. Donc le cœur, chaque cœur droit, chaque cœur gauche, c'est une unité ensemble, mais va fonctionner en deux étapes pour permettre tout simplement les pompes qu'on a généralement, elles reçoivent un liquide. Donc quand je parle généralement, les pompes dans la cave, elles font recevoir le liquide et l'envoyer en même temps. Ici, le cœur, c'est pas un fonctionnement avec une hélice qui tourne en continu, c'est un fonctionnement à deux cavités. Donc il y en a une qui va se remplir. Pendant ce temps-là, la deuxième cavité se relâche. La première va éjecter dans la seconde. Pendant ce temps-là, elle se relâche, la première, et la seconde éjecte. Et donc ça fonctionne en deux temps. Pour éviter que le sang du ventricule gauche retourne dans l'oreillette gauche quand il va éjecter vers le cerveau et le reste du corps, il y a une valve. Donc c'est une petite porte qui s'ouvre, qui se ferme, qui s'ouvre, qui se ferme, au bon moment. Donc elle s'ouvre quand le sang doit aller de l'oreillette gauche vers le ventricule gauche et se ferme quand le ventricule gauche éjecte le sang vers la circulation sanguine. Ventricule gauche, oreillette gauche, donc il y a la valve entre les deux pour éviter finalement que quand le ventricule gauche se contracte et éjecte le sang vers la circulation, que le sang retourne vers l'oreillette gauche. Et donc cette valve, c'est une structure fibreuse, qui est assez fragile et qui est assez fine, elle est retenue au fait par ces muscles papillaires, donc qui sont des expansions du ventricule gauche dans la cavité, et qui vont s'attacher à la valve avec des petits cordages tendineux. Et au moment où le ventricule se contracte, ces muscles vont également se contracter pour maintenir la valve. Vu que la pression dans le ventricule augmente, il ne faudrait pas que la valve se retourne, et donc elle est maintenue à son centre par ces petits cordages et ces muscles papillaires, pour la maintenir fermée durant toute la contraction du ventricule, mais également l'éjection quand le ventricule va éjecter le sang. Et donc, de manière analogique, on peut imaginer ça un petit peu comme un parachutiste. Donc la voile du parachute, c'est la valve, les cordages tendineux, ce sont les cordes, et les bras du haut de la parachutiste, ce sont les muscles papillaires qui vont retenir cette valve contre une pression. Voilà. Et donc, moi, j'ai étudié particulièrement la relation qu'il existe entre ces muscles papillaires et le ventricule gauche dans ce contexte d'impesanteur réel et simulé.
Justement, la question de l'impesanteur ou de microgravité, est-ce que vous pouvez expliquer en quoi ça consiste en fait ?
Oui, tout à fait. Alors, il y a deux registres. Il y a le registre anglophone et le registre francophone. En anglais, microgravity, donc microgravité traduit de manière littérale, c'est quelque chose qui est accepté, même si physiquement ce n'est pas juste. En anglais, on va dire weightlessness, donc l'absence de poids, ce qui se traduit finalement chez nous en apesanteur ou impesanteur. Je vais revenir sur les deux. Donc pourquoi pas microgravité ? Mais parce que à l'heure actuelle, les astronautes qu'on étudie, ce sont les astronautes qui sont dans la Station Spatiale Internationale, l'ISS, et qui orbitent autour de la Terre, à plus ou moins 400 km de la surface du sol. Donc, c'est pas très haut, finalement, quand on dit 400 km, on va même pas jusqu'au sud de la France. Mais ça, du coup, c'est la hauteur de l'ISS par rapport au sol. Et donc, il faut imaginer que, à 400 km, la gravité terrestre qui est perçue, elle est, je crois, de 92% de la gravité qu'on a, nous, au sol. Donc, on peut pas parler de microgravité. Micro, le préfixe micro, ça vous entend qu'on est, du coup, je crois, à 10-6 de la gravité. On n'est pas à 10-6 de la gravité, on est à 92% de la gravité réelle. Donc on est encore dans l'unité de la gravité. Et donc, finalement, pourquoi est-ce qu'ils ressentent cette gravité, mais qu'ils sont en état d'impesanteur, qu'ils flottent ? Mais pourquoi ? Parce que, au fait, l'ISS, elle est mise en orbite. Donc, de nouveau, sans schéma, c'est un peu compliqué. Mais si on imagine, on prend la Terre. On prend un canon qui est tout en haut du mont Everest, le point le plus haut de la Terre. Le canon va tirer un boulet à une certaine vitesse, une vitesse A. Le boulet va avancer et puis va tomber. C'est l'expérience de Newton avec les boulets. Qu'est-ce qui se passe si jamais il tire à une vitesse B qui est plus importante? Le boulet va aller un peu plus loin et tomber. Puis vitesse C, encore un peu plus loin et tomber. Donc on imagine sur la Terre. Vitesse D, la vitesse est tellement importante que le boulet tombe, mais il tombe et il ne reviendra jamais sur Terre. Parce que la vitesse à laquelle il a été envoyé, c'est la vitesse de mise en orbite. Et donc, la vitesse longitudinale, horizontale par rapport au sol, est tellement importante par rapport à l'accélération gravitaire que la résultante tangentielle hein, fait que le boulet loupe tout le temps la Terre. Et au fait, il n'arrivera jamais sur Terre. Il est en chute libre permanente. Donc c'est comme si tout ce qui était dans l'ISS était en train de tomber vers la Terre tout le temps, mais que leur vitesse horizontale est tellement forte qu'ils ne tombent pas sur Terre. On enlève les frottements, hein, parce qu'évidemment, s'il y a des frottements, la vitesse se réduit et progressivement, l'ISS revient sur Terre. Et c'est ce qui se passe. L'ISS, progressivement, revient sur Terre. Donc, tous les X temps, je ne connais pas trop le timing, je ne sais plus si c'est tous les 3 mois, 6 mois ou 9 mois, mais l'ISS, au fait, allume ses réacteurs pour retrouver cette vitesse, comme je disais, D, qui est la vitesse de mise en orbite, et rester en orbite.
Et qu'est-ce que ça implique exactement pour les astronautes, on appelle ça des astronautes qui sont dans l'ISS.
Mais du coup, les astronautes qui sont dans l'ISS, comme tous les objets de l'ISS, sont en chute libre, donc ils tombent vers la Terre, mais ils ont une vitesse horizontale de 28 000 km/h. Donc c'est un peu l'expérience du train. Ou si je suis dans le train et que je lance mon téléphone en l'air et que je le rattrape, mon téléphone, finalement, il retombe tout le temps dans ma main. Parce que mon téléphone et moi-même avons la même vitesse que la vitesse du train. Si par contre, on a un observateur qui est en dehors du train, il va voir le téléphone aller à la même vitesse que le train. Même si moi, je vois que mon téléphone, finalement, il a la même vitesse que moi, il n'a pas de vitesse. Okay? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si jamais le train accélère et que je lance mon téléphone à ce moment-là? Mon téléphone, vu que je ne le tiens plus en main au moment où le train accélère, mon téléphone va partir en arrière. Je vais me rattraper dans le visage. À l'inverse, si le train freine quand je lance mon téléphone va se prendre le mur qui est en face. Parce que du coup, il aura une vitesse qui est la vitesse du train avant qu'il freine. Voilà. C'est ce qui se passe dans l'ISS. C'est pour ça que si jamais, par exemple, l'ISS freine d'un coup, ça n'arrivera pas. Tous les astronautes, tous les objets dedans vont être expulsés par rapport au mur qui est en face. Okay. Ça n'arrive pas. Mais donc, les astronautes... Mais il y a une expérience qui est très sympa. On peut regarder ça sur YouTube. On voit les astronautes qui se mettent à l'avant de l'ISS, qui se mettent en boule, donc ils flottent. Ils ne touchent plus rien du tout, et on voit qu'ils driftent. Ils reculent jusqu'à l'arrière de l'ISS. Pourquoi ? Parce que s'ils ne touchent plus rien, ils ralentissent. Ils ne sont plus à 28 000 km/h, et ils avancent dans l'ISS. Ou l'ISS avance plus vite qu'eux, et donc ils se déplacent. Très drôle. Hein. Et donc du coup, ça c'est ce qui se passe concrètement pour les astronautes. Concrètement, ils ne ressentent pas trop le fait d'être à 28 000 km/h, mais donc ils ressentent la gravité, ils sont juste en chute libre. D'où l'impesanteur ou l'apesanteur, parce que le vecteur poids est annulé. Ils ont toujours une masse, mais ils ont un poids qui est annulé parce qu'ils sont en chute libre. C'est comme un ascenseur qui va d'un coup lâcher ses freins et tombe dans la cage. Ah ben on va flotter dans l'ascenseur. C'est ce qui se passe aussi pour eux, en fait. Ils flottent dans l'ISS. Alors pourquoi on ne dit pas apesanteur ? Parce que, en français, l'apesanteur ou l'apesanteur, on ne fait pas la différence entre la L-A espace pesanteur et L apostrophe apesanteur. Et donc pour ne pas faire, pas se tromper finalement dans un discours oral entre la pesanteur et la pesanteur, on dit l'impesanteur.
Et donc en quoi cette variable de l'impesanteur est importante pour les questions du cœur et de la valve et des muscles papillaires?
Le contexte spatial, il y a plein de variables, il y a plein de facteurs. Il y a l'impesanteur. Il y a les radiations. Les radiations, il y en a plusieurs. Il y a les radiations solaires, il y a les radiations cosmiques. Il y a l'isolement. L'isolement en physique, parce qu'ils ne sont pas sur Terre. S'ils ont un besoin médical, ils ne savent pas être directement hospitalisés. Alors, on a vu il y a quelques mois, il y a un astronaute qui a pu être rapidement pris en charge. Hein. Dans la semaine, il était pris en charge d'un point de vue médical sur Terre. Donc, son vaisseau est revenu en urgence sur Terre. Mais malgré tout, ils sont isolés. Ils sont aussi isolés psychologiquement, parce que d'un point de vue psychologique, ils ont accès, je crois, à un psychologue une fois par semaine, mais c'est un environnement qui est extrêmement stressant. Il faut imaginer que ce qui les sépare du vide intergalactique, c'est quelques millimètres. Ça, c'est l'épaisseur de l'ISS. Si ça vient à casser, ils sont tous morts. Et ça, c'est en continu durant toute leur mission de 6 mois, 8 mois, 1 an. Donc, vous imaginez ça chaque seconde de chaque journée. S'il y a un feu, c'est compliqué. S'il y a une fuite d'oxygène, s'il y a un produit chimique qui se répand dans l'atmosphère de l'ISS, ils vont pas s'en rendre compte tout de suite. Ils pourraient s'asphyxier sans le savoir. Enfin, voilà. Il y a plein de contraintes qui font que c'est difficile psychologiquement. Et donc, il y a plein de contraintes sur tous les systèmes. Tout ça va avoir des contraintes, plus ou moins fortes. L'avantage de l'ISS, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle la ceinture de Van Allen. Donc, c'est une ceinture liée au magnétisme terrestre qui nous protège des radiations. Radiations solaires et radiations cosmiques. Plus ou moins fort en fonction du type de radiation. Et donc, on est protégé des radiations. Donc, les radiations n'ont pas beaucoup d'impact, même si elles ont quand même un impact dans l'ISS. Ensuite, l'isolement, comme on a dit, s'il y a vraiment une urgence, en, je crois, 3 heures, ils peuvent être revenus sur Terre. Donc, des chercheurs qui sont en Antarctique sont plus isolés que ceux dans l'ISS, les astronautes. Mais donc, c'est un isolement relatif. Psychologiquement, comme je dis, toutes les semaines, ils ont un contact. Donc, finalement, la variable qui a le plus d'impact sur eux, dans l'ISS, c'est cette impesanteur. Ok ? Aller vers la Lune, aller vers Mars, il y aura cette variable d'impesanteur, mais il y aura d'autres variables. On ne sera plus dans la ceinture de Van Allen, donc les radiations, là, vont prendre une place bien plus importante que l'impact de l'impesanteur. D'où le fait que l'impesanteur est étudié ici, dans ce modèle, pour ma thèse. Mais même sur toutes les études qui ont été faites à l'heure actuelle, c'est l'impesanteur qui est la plus étudiée, secondée par les radiations. Dans l'objectif d'étudier ce qui se passe dans l'ISS, mais aussi pour plus tard, sachant que ce sera ça le plus détrimentaire.
Juste pour bien comprendre, l'impesanteur, ça impacte ce que vous racontiez par rapport à la perte de masse musculaire et donc le fonctionnement, au final, le bon fonctionnement du cœur. C'est ça qui est important de comprendre pour contrôler.
Contrôler, finalement, si on reprend l'historique hein, de toutes ces études, pas juste ma thèse, au départ, c'était étudier l'environnement spatial pour l'environnement spatial, pour se dire, finalement, en allant dans l'espace, est-ce que c'est un danger ? Est-ce que les astronautes vont mourir dans l'espace ? Maintenant, on sait que non. Même si les astronautes ne font pas d'activité physique, rester dans l'espace au niveau de l'ISS, à part s'il y a un problème technique à l'ISS, les astronautes ne vont pas mourir liés à rester dans l'espace. Le problème est revenir sur Terre. Parce qu'on imagine, là on parle du système cardiovasculaire, mais il y a aussi les os, les muscles striés squelettiques, donc les muscles qui sont attachés aux os. Tout ça va finalement être impacté. Donc le cœur perd en masse, donc c'est moins bien injecté du sang, les os se fragilisent, les muscles au niveau des membres perdent en masse aussi, et donc on imagine un astronaute comme ça qui revienne sur Terre, tous les astronautes qui vont revenir, ils vont avoir un cœur qui est moins fonctionnel, des os fragiles et des muscles qui ne savent plus résister à la gravité. Ils arrivent sur Terre, ils ne savent plus se mettre debout. S'ils se mettent debout, ils tombent, ils se cassent les os. Et donc, ce sont des gens qui arrivent hyper fragilisés, il faut s'occuper d'eux parce que finalement, le moindre problème pourrait être un problème de santé assez grave. Si on prend le système cardiovasculaire, ce qui arrive chez les astronautes, c'est ce qu'on appelle des malaises, un malaise, mais c'est de manière scientifique, c'est une hypotension orthostatique. Donc c'est une diminution de la pression artérielle liée à la mise en position debout. Comme je disais, quand on se met debout, le cœur, il doit pressuriser pour envoyer le sang vers le cerveau. S'il est plus assez fort, à la mise debout, le cœur n'arrivera pas à éjecter du sang correctement vers le cerveau. Le cerveau n'ayant pas assez d'oxygène, il se met en état de veille. Donc, il nous fait en sorte qu'on tombe par terre pour que le sang aille de nouveau vers le cerveau. C'est un réflexe. Et puis, de nouveau être correctement irrigué. On récupère, on se remet debout, on retombe. Mais voilà. Donc ça, c'est l'hypotension orthostatique, donc la diminution de la pression artérielle liée à la mise en position debout. C'est ce qu'ont les astronautes. Et donc, c'est pour ça que, au tout début, en étudiant ce qui se passait dans l'espace, et quand ils revenaient sur Terre, on voyait que ça n'allait pas. De nouveau, il y a en fait une petite vidéo sur YouTube où on voit une astronaute qui est interviewée par des journalistes directement à la sortie de son vaisseau spatial, et elle fait 2 malaises devant son micro. Ça, c'était il y a très longtemps. Mais maintenant, on sait que du coup, il faut faire de l'activité physique. Quand les astronautes font de l'activité physique intense, régulière, supervisée, donc tous les jours, ils font entre 1h30 et 2h d'activité physique, tous les jours durant toute leur mission, quand je dis activité physique, ils courent sur tapis, ils font du vélo et ils font du renforcement musculaire, tous les jours.
Dans l'espace.
Dans l'espace, dans l'ISS. En faisant tout ça, ils ont en fait un module, c'est une salle de sport. Alors, ce n'est pas une salle de sport conventionnelle comme on l'imagine, ça ne ressemble pas du tout à une salle de sport. Mais ils ont effectivement un vélo sans selle, parce qu'en fait, vu qu'ils flottent, ils n'ont pas besoin de selle. Ils courent sur un tapis. Alors, pour rester sur le tapis, en fait, ils ont un harnais avec des élastiques qui les attachent au tapis pour rester sur le tapis et savoir courir.
Et pour le renforcement musculaire, vu qu'on ne sait pas soulever un poids, vu que le poids il flotte comme l'astronaute, ce sont en fait des pistons, comme il y a sur les chaises, ou comme il y a quand on ouvre le coffre, il y a deux pistons. Et donc ils tirent contre un piston, ou alors ils poussent contre un piston. Et donc cette activité physique permet finalement de lutter contre tous ces problèmes. Et quand ils reviennent, ils ont moins cette hypotension orthostatique, ils ont moins d'atrophie au niveau des muscles, des jambes, et les os sont moins fragilisés. Et donc ils sont beaucoup plus vite fonctionnels.
Maintenant qu'on a posé les bases du sujet, Cyril Tordeur va pouvoir nous expliquer concrètement sa recherche et ses résultats. Mais avant, nous vous proposons tout de suite une petite pause musicale avec Woman du groupe Bella Blossom. C'était Woman du groupe Bella Blossom sur Radio Campus. Tout de suite, nous retrouvons Cyril Tordeur pour la suite de notre émission. Il nous explique quelles sont les expériences qu'il a réalisées dans le cadre de sa thèse.
Ce que moi j'ai étudié, donc comme je le disais, c'est cette relation muscle-papillaire versus ventricule gauche. En gros, on s'est rendu compte, donc on a fait de l'IRM cardiaque, donc de l'image par résonance magnétique. Donc ça nous permet d'avoir une image qui a haute résolution du cœur. Ouais, finalement un petit peu tout ce qu'il y a dans le corps en fonction de ce qu'on investigue. Et donc, c'est le gold standard. Donc, c'est l'examen de choix pour le système cardiovasculaire en termes d'imagerie pour avoir une bonne résolution spatiale, donc voir correctement toutes les structures du cœur. Donc, on a fait cet IRM cardiaque avant d'aller dans l'espace et directement en revenant de l'espace. Donc, quand je dis avant, c'était entre 1 et 2 mois avant d'aller. Et directement après, c'était 4 à 8 jours après, en moyenne 6 jours après de revenu sur Terre. On a fait ça sur 9 cosmonautes, des astronautes russes. Donc les astronautes, en fait, en fonction d'où ils viennent, portent des noms différents. Ils font tous le même boulot, c'est le même job, mais ils ont des titres différents. Les Russes, c'est que cosmonautes, les Européens, c'est des astronautes, les Français sont des spationautes, et donc Européens, on garde astronautes. Américains, Canadiens, Australiens, tout ce qui est occidental, ça va être astronaute. Et particulièrement, les Chinois, ce sont des taïkonautes. Voilà. Des cosmonautes, donc des astronautes russes. On a fait l'IRM avant, après vol spatial. Vol spatial de longue durée, donc de 6 mois à 1 an. On avait ce set de données et on voulait finalement quantifier la teinte morphologique et fonctionnelle du cœur de ces cosmonautes sur des missions de longue durée. Donc ça, c'était le premier projet de la thèse. Pourquoi particulièrement des cosmonautes? Parce que, comme je le dis, ils font l'activité physique, les astronautes, mais les astronautes américains et les cosmonautes n'ont pas exactement le même protocole d'activité physique. Ça diffère un petit peu. Et donc, en fait, l'agence spatiale russe, au départ, voulait s'assurer que leur protocole d'activité physique est tout aussi efficace que celui des Américains. Et donc, c'était pour ça qu'on a rejoint ce projet-là. Et donc, j'ai étudié ce cœur, ce ventricule gauche des cosmonautes. Et une petite particularité, c'est qu'en imagerie médicale, en radiologie, ce n'est que depuis maintenant quelques mois qu'il y a un consensus sur comment étudier ces muscles papillaires. Parce qu'avant, les muscles papillaires n'étaient pas inclus dans le calcul de la masse du ventricule gauche. Deux possibilités. Soit le muscle papillaire était considéré comme du sang, pour faciliter l'analyse des radiologues, soit ils étaient considérés comme du muscle, mais ça voulait dire qu'ils devaient s'amuser à les tracer, à marquer leurs contours, et ça prenait du temps. Du coup, ils faisaient comme s'ils n'existaient pas, et qu'ils étaient du sang. Ça veut dire qu'on surévalue un peu le volume de sang, vu qu'ils occupent une place dans ce ventricule, dans la cavité, mais qui n'est pas du sang. Moi, je me suis dit, c'est mon doctorat, j'ai 4 ans, j'ai le temps, je vais m'amuser à segmenter, donc à faire le petit tour de tous ces muscles papillaires et de les séparer du ventricule gauche pour avoir juste les masses du muscle papillaire. Alors l'objectif n'était pas d'avoir la masse du muscle papillaire, l'objectif était d'avoir la masse du ventricule gauche la plus précise possible. Donc ni perturbée par « je mets un peu de sang » ou ni perturbée par « j'inclus les muscles papillaires » alors qu'ils ne sont pas incluables parce que ce n'est pas le ventricule gauche. J'ai fait ça et je me suis rendu compte que tous les paramètres que j'étudiais dans le ventricule gauche, il n'y avait aucun qui variait entre avant et après vol spatial. Donc, pour l'agence spatiale russe, c'était parfait parce que l'activité physique que les cosmonautes faisaient était efficace vu qu'il n'y avait pas d'atrophie du ventricule gauche, il n'y avait pas de perte de fonction de ce ventricule gauche non plus. Donc, parfait. Moi, j'étais un petit peu ennuyé parce que je me dis, oui, c'est certes, c'est sympa, mais on aime toujours voir des choses qui changent. Et je regarde ces muscles papillaires et je vois que les muscles papillaires, en fait, systématiquement, perdent en masse. Alors que les cosmonautes font de l'activité physique. Que le muscle papillaire fait partie du ventricule gauche, et que d'un point de vue tissulaire, en biologie moléculaire, le muscle papillaire est constitué de cardiomyocytes, donc ces cellules contractiles du cœur, et ce sont les mêmes que le ventricule gauche. Donc c'est les mêmes cellules, c'est le même organe, c'est la même partie de l'organe. Les astronautes, dans ce cas-ci, les cosmonautes font de l'activité physique, pourquoi est-ce que ce muscle papillaire s'atrophie de manière sélective malgré une contre-mesure, malgré une activité physique? Et du coup, on a voulu continuer sur cette différence d'adaptation au sein du ventricule gauche avec du coup, des modèles au sein d'un laboratoire pour essayer d'étudier pourquoi ce muscle papillaire s'atrophie malgré qu'il y ait de l'activité physique et est-ce que c'est réversible ou pas.
Et donc, vous disiez, vous avez confirmé cette découverte par des expériences en laboratoire. Alors, c'était ici à l'ULB?
Alors, oui et non. Donc, pour confirmer, on a, je veux dire, deux manières. Il y a plusieurs manières, mais nous, on a utilisé deux manières. Soit on essaie de confirmer en se disant, on va confirmer chez l'homme. Donc, on va étudier l'humain soumis à une simulation d'un pesanteur. Ou bien, on peut se dire, on va étudier l'animal. Parce que l'animal reste un modèle de choix dans beaucoup d'études en sciences de la vie. Donc on peut se dire, on peut soumettre des animaux à l'impesanteur ou une impesanteur simulée et l'étudier.
Les recherches de Cyril Tordeur sur l'humain ont donc été réalisées, non pas à l'ULB, mais à l'Institut de médecine aérospatiale situé à Cologne, en Allemagne. Le chercheur nous explique les résultats de ces expériences qui ont donc simulé l'impesanteur chez l'humain.
Alors, au niveau humain, donc l'étude qu'on a faite, dans ce cas-ci, il n'y avait pas d'activité physique. On voulait confirmer, vu qu'il n'y a pas d'effet de l'activité physique chez nos cosmonautes pour ces muses papillaires, on voulait, la question qu'on se disait, c'est si on reproduit ce qui se passe dans l'espace le plus fidèlement possible, mais sans activité physique, est-ce qu'on va observer une atrophie de ce muse papillaire associée à une atrophie du ventricule gauche, vu qu'il n'y a plus d'activité physique? Et on a montré ça. Donc on a montré qu'il y a bien une atrophie des deux structures. Le ventricule gauche s'atrophie, le muse papillaire s'atrophie aussi. La particularité qu'on a montrée dans ce modèle, cette simulation d'impesanteur, c'est que le ventricule gauche s'atrophie de plus ou moins, c'était je crois 6% après 2 mois d'alitement, alors que le muse papillaire s'atrophie de 14%. Donc l'atrophie relative, par rapport à la masse de départ, est plus importante sur le muse papillaire, même s'il n'y a pas d'activité physique. Donc on confirme qu'il s'atrophie, même s'il n'y a pas d'activité physique, il s'atrophie, donc l'activité physique n'a aucun impact sur ce muscle papillaire, ou quelque chose qu'on n'arrive pas à mettre en évidence, du moins. Et cette atrophie du muscle papillaire est plus importante que l'atrophie du muscle papillaire. Est plus importante que l'atrophie du ventricule gauche. Chez la souris, on a montré la même chose.
Mais donc, concrètement, quelles sont les perspectives pour la science? Le chercheur Cyril Tordeur nous a aidés à mieux comprendre.
Alors, il y en a quand même plusieurs ou pas, en fonction de quelle direction on prend pour les perspectives. Donc, à l'heure actuelle, aller dans l'ISS en restant 6 mois, 8 mois ou peut-être 1 an, a priori, ça ne va rien changer pour les astronautes. Parce qu'on voit que, finalement, si ça posait un problème... Alors, d'abord, qu'est-ce que ça pourrait poser comme problème? Comme si je repars au tout début sur, finalement, cette anatomie du cœur, si le muscle papillaire a un problème, c'est la valve qui pourrait ne plus se fermer. Et donc, quand le cœur, le ventricule gauche, va éjecter le sang, du sang pourrait passer dans l'oreillette gauche. Si une partie du sang part dans l'oreillette gauche, ou tout le sang part dans l'oreillette gauche, ça veut dire que cette partie qui est partie dans l'oreillette gauche ne part plus dans la circulation systémique, et donc ne participe pas à nourrir nos organes en nutriments, en oxygène. Donc, c'est ça le problème. Et ça, c'est une pathologie sur Terre qu'on appelle l'insuffisance de la valve mitrale. L'insuffisance mitrale. Insuffisance parce qu'elle est insuffisante, elle ne se ferme plus. Si ça avait été un problème pour nos astronautes de 6 mois, 8 mois ou 1 an, on l'aurait déjà vu sur Terre, qu'ils ont une insuffisance de la valve mitrale. On ne l'a pas vu. Alors, dans ma première étude sur les cosmonautes, l'IRM, les acquisitions IRM, les protocoles IRM qu'on a fait, ne sont pas ceux qui permettent d'évaluer la fonctionnalité de la valve. Mais malgré tout, on a des indices qui peuvent nous dire est-ce que la valve va impacter ou non. On a vu qu'elle était impactée d'un point de vue morphologique, donc elle augmente de taille, mais a priori, difficile de conclure, mais elle reste compétente, elle reste fonctionnelle. Donc il n'y a pas d'insuffisance chez ces cosmonautes, ce qui est une bonne nouvelle. Et donc dans ce contexte-là, pas de problème pour nos astronautes. Donc entre guillemets, finalement, mes résultats, c'est intéressant, mais c'est plus fondamental qu'autre chose, parce que ça ne les impacte pas. Deux choses. Aller vers Mars, on est déjà à 2 ans d'exposition aller-retour. Ça n'a jamais été étudié. Donc on ne sait pas, au fait, si une exposition plus longue à l'impesanteur pourrait produire dans l'espace une insuffisance de la valve mitrale. Donc ça, c'est la première chose en perspective qu'il faudrait étudier, de se dire, est-ce qu'une exposition de plus longue durée peut constituer un risque pour cette fonctionnalité de la valve? Autre chose, avec les programmes commerciaux, on a de plus en plus d'astronautes qui vont dans l'espace, qui ne sont plus des astronautes professionnels. Donc ça veut dire quoi? Qu'ils ne sont plus sélectionnés d'un point de vue médical et d'un point de vue compétence ou d'un point de vue risque pour leur santé. Ils sont moins bien sélectionnés, voire parfois il n'y a pas beaucoup de sélection, ils sont juste entraînés sans être sélectionnés. Et donc là, pose la question de se dire s'ils ont un risque d'insuffisance mitrale ou un risque pour le cœur qui pourrait être amplifié par cette atrophie du muscle papillaire, est-ce que ça va poser un problème pour leur santé dans l'espace ou pire quand ils reviennent sur Terre? Ça, on ne sait pas. Il faudrait aussi étudier. Même peut-être parfois un séjour court, on ne sait pas. Et l'autre perspective, c'est finalement, et c'est toujours intéressant dans le milieu spatial, quand on étudie quelque chose dans l'espace, c'est qu'en est-il de sur Terre? Parce que finalement, comme je le disais, mon second modèle, l'alitement prolongé, anti-orthostatique, on prend les soins intensifs qui ne sont pas loin d'ici, Il y a des sujets, des patients qui sont alités parfois pendant un mois, voire plus. Et finalement, dans ce contexte, que se passe-t-il pour ce muspapillaire et la fonctionnalité de la valve mitrale? On ne sait pas. Ça n'a jamais été étudié non plus. Et donc j'en parlais avec une collègue qui est assistante en chirurgie cardiothoracique et qui travaille aussi aux soins intensifs, qui me disait « mais c'est hyper intéressant parce que finalement, c'est quelque chose qu'on n'a pas étudié et qu'on ne sait pas, mais effectivement, l'alitement prolongé aux soins intensifs, ou même dans certains services hospitaliers comme en gériatrie, est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça va induire une atrophie du muscle papillaire et un risque d'insuffisance mitrale ?»
Maintenant que sa thèse est rendue, nous avons demandé au doctorant s'il avait l'intention justement de se pencher sur ses perspectives de recherche.
Je l'espère, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, en tout cas dans tous les cas, même si moi je ne sais pas le faire, je vais essayer d'être acteur pour que d'autres puissent pouvoir continuer ces recherches. Ici je suis en train, j'ai peut-être trouvé un post-doctorat, si ça se fait, a priori, le projet de post-doctorat n'étudiera pas ça en premier objectif. En second objectif, j'essaierai tout de même de continuer. Oui.
Eh bien voilà, nous arrivons déjà à la fin de notre émission Histoire de savoir. Aujourd'hui, nous en avons appris beaucoup sur l'impact de l'impesanteur sur le cœur des astronautes, grâce à notre expert de la question, le chercheur Cyril Tordeur. Un grand merci à lui et merci à ma collègue Manon Pourtois.
Merci Marie et on vous souhaite une agréable journée sur Radio Campus.
What?